France Culture, les matins d'été, Benoît Bouscarel.
Pierre a tué sa femme, il assumera ses responsabilités. Ces quelques mots entendus au téléphone un jour de 2004 dans la bouche d'un frère à propos d'un cousin qui vient donc de tuer sa femme. Ces quelques mots claquent en ouverture du récit de Joan Rigoulot que nous recevons ce matin. Bonjour Joan Rigoulot.
Bonjour.
Vous publiez un dimanche matin aux éditions Équateur entre drame familial, faits divers sordides et faits de société. Ce récit, vous l'avez écrit 15 ans après les faits pour essayer de comprendre ce qui vous est tombé dessus ce jour-là, pour traquer l'oxygène, expliquez-vous. Vous rentrez du cinéma ce jour-là, vous rallumez votre téléphone portable et vous constatez que votre frère a cherché à vous joindre. Il doit vous annoncer ce qui vient de se passer et il vous annonce finalement que tous les deux, vous êtes devenus les cousins d'un tueur de femmes. Alors, vous ne prenez pas plus de précautions avec le lecteur que ce que votre frère a pris ce jour-là avec vous. Vous le faites entrer très vite, ce lecteur est de plein pied, non pas dans l'horreur ou dans le fait divers, mais finalement dans votre famille.
Oui, puis dans la réalité des faits aussi. Parce que c'est une réalité qui bascule à ce moment-là. Donc c'est vrai que l'idée... Enfin, c'est étonnant parce que le jour où mon frère m'a appelé pour me dire ça, j'étais avec des amis qui marchaient devant moi et j'ai pas su comment les retenir pour leur dire mon cousin a tué sa femme. J'ai cherché les mots et en fait c'est drôle parce que ces mots je les ai cherchés pendant 15 ans, les 15 ans qu'on suivit. Donc effectivement quand le livre s'ouvre, il s'ouvre sur ce changement de réalité là. Ce basculement dans le fait divers.
Ouais, qui est très difficile évidemment à décrire et pourtant c'est ce que vous faites. Ce drame est d'abord un drame intime, Joan Rigoulot, c'est ce qui fait sa force. Il raconte ce qu'on voit jamais finalement du fait divers, du sordide, c'est sa part intime, parce que vous racontez l'intérieur de la famille, ce qui se passe à ce moment-là, ce qui se passe après, et puis aussi ce qui s'est passé avant, comment on en est arrivé là.
Mon parti pris, ça a été l'angle mort, en fait, du fait divers. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, effectivement, est rarement raconté. Et c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de le faire à un moment donné. Parce que je pensais aussi que c'était important sur ce que ça raconte de la société, de la manière dont on juge les hommes et les femmes. En l'occurrence, c'est un homme. Et c'était quelque chose que je voyais, finalement, très rarement abordé. Moi, je suis par ailleurs romancière, scénariste. C'est quelque chose que je vois peu, en fait, dans les fictions. C'est quelque chose que je vois peu dans les documentaires. Je dis souvent que si je l'avais vu, si j'avais pu m'appuyer sur quelque chose, j'aurais pas eu à prendre cette responsabilité, parce que c'est une responsabilité à un moment donné de prendre la parole sur un sujet.
Ça pourra servir pour... C'était un début, puisque effectivement vous travaillez dans la fiction. Là, c'est pas un roman, c'est un
non,
récit.
C'est un récit, un dimanche matin. Ouais. C'est un récit assumé, puisque je dis « je », puisque je parle de gens...
On parlait de votre cousin qui existe.
Voilà. Ouais, tout à fait, qui s'appelle Pierre. Oui, alors je pense que c'est quelque chose, c'est des faits qui sont survenus il y a 15 ans. C'est quelque chose qui a nourri effectivement mon imaginaire, mais à un moment donné, il n'était plus question de fiction. Même si la vérité, c'est quand même un concept assez relatif. Hein. Mais en revanche, il était question de raconter, en fait, une expérience. Et donc, pour ça, il fallait l'affronter au premier degré, c'est-à-dire vraiment en disant « je ». Voilà.
C'est pas une question de fiction, mais c'est relatif, disiez-vous, Joan Rigoulot. En même temps, il a reconnu très vite les faits. Pierre, le cousin.
Il n'y a pas de doute sur les faits.
Il n'y a
pas
aucun doute là-dessus.
Je dis juste simplement que quand je parlais d'une vérité relative, c'est que le point de vue sur un fait est toujours subjectif.
Alors vous ne l'excusez, bien sûr, vous ne l'excusez pas, votre cousin. Mais comment faire autrement que d'essayer de le comprendre? C'est ça aussi la question de ce livre. Vous revenez sur sa vie. Il se trouve que Pierre, c'était le cousin sympa, celui que les enfants adorent aux réunions de famille un peu barbantes par ailleurs. C'était un homme, dites-vous, fréquentable et sécurisant.
Tout à fait. Alors, il y a plein de choses qui le rendent sécurisant dans sa nature, mais c'est vrai que le but n'a certainement pas été d'excuser son geste. Il a été simplement, ça a été une nécessité, je dirais quasi vitale pour moi, à un moment donné, de comprendre en tout cas les rouages de son basculement dans la violence. Ouais. Vraiment. Et il y a un mécanisme. Il y a quand même un mécanisme qui fait basculer quelqu'un justement a priori d'extrêmement doux et bienveillant à quelqu'un qui va se transformer un dimanche matin en un barbare.
Il n'était pas prédestiné à ça. Il n'y avait pas quelque chose dans son histoire personnelle. Vous essayez de creuser ça. C'est toute cette partie avant.
J'essaye de suivre son cheminement.
Ouais.
Moi, vraiment, oui, effectivement, du moment où de notre enfance. Pierre a 5 ans de plus que moi. Donc de sa construction d'adolescence, sa construction d'homme à laquelle j'assiste et à ce basculement vers quelqu'un, voilà, qui est aujourd'hui.
Mais il n'y a rien. Il y a rien, Joanne Rigolo, dans sa vie d'avant. Alors, il y a quelques éléments dans la famille, mais qui concernent tellement de millions de gens dans le monde.
C'est la difficulté.
C'est ça la difficulté, voilà. Non, mais vous dites, il pousse en bonsaï dans cette famille qui lui laisse pas vraiment de place. Non, il y a un grand frère qui est un peu
extraverti,
qui prend énormément de place. Lui, il pousse en bonsaï, mais d'où on arrive en poussant en bonsaï, comme vous le dites, à tuer sa femme un jour dans des conditions d'ailleurs, vous le racontez dans le livre aussi, conditions terribles.
Ouais, des conditions terribles. Alors ça, c'est très surprenant, effectivement. Cette brutalité est très surprenante. Malgré tout, moi, j'essaye, au travers de ces pages, d'explorer vraiment les méandres de la dépression. Vraiment, c'est-à-dire que c'est quand même une dépression construite, hein, quand même. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui en donne peu de place, quelqu'un qui est, on va dire, assez maltraité au sein de sa propre famille, et puis qui va, comme me l'a dit d'ailleurs un des magistrats qui avait suivi l'affaire, en confrontant les deux frères, me disait il faut se donner les moyens de son exubérance, en parlant du grand frère. Donc il y avait un grand frère très normatif, il y avait un grand frère très exubérant, et Pierre qui est le fils cadet, beaucoup plus normatif, et c'est vrai qu'à un moment il va remplir tous les codes d'une société, en fait, voilà, l'homme marié, deux enfants, le petit pavillon. Et à un moment donné, le costume est trop étroit. Et il y a cette explosion. Alors cette explosion, elle va pas, elle tombe pas sur tout le monde. Hein. C'est il y a quand même quelque chose qui est dans la montée en puissance d'une violence, une maturation de violence qui ne se fait pas du jour au lendemain. Mmh. C'est ce que j'essaye de.
Ça vient plus du système finalement que de l'individu.
Alors moi, je pense que la violence, c'est d'abord un système qui va se créer entre deux personnes, en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est pas, pour moi, il n'y a pas de déterminisme de personne ou d'histoire. Il y a en revanche un système violent qui va s'établir à un moment donné entre deux personnes, mais dont les stigmates sont infimes. Et c'est ça qu'il faut essayer de percevoir au mieux si on veut essayer à un moment donné d'endiguer cette violence-là.
Ouais. Et vous dites un peu regretter de pas avoir perçu des signes. La vraie question, Joanne Rigolo, c'est comment gérer une intimité avec finalement un bourreau. Vous le dites vous-même, un bourreau, un tueur de femmes, parce que c'est ce qu'il est. La frontière entre le bien et le mal, évidemment, s'effondre. C'était bien confortable avant, quand il y avait le bien et le mal. Maintenant, c'est fini. Et puis, vous posez cette question, qu'est-ce qu'on dit à un tueur de femmes? Parce que personne dans la famille ne l'a abandonné, cousin qui est allé en prison.
Il y est toujours, d'ailleurs.
Qui y est toujours, et pour de longues années. Il a pris 25 ans de prison après 3 procès jusqu'à la cassation. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on peut écrire quelques jours après le meurtre à un tueur de femmes, à quelqu'un qui a tué de ses mains?
C'est la longue transformation d'une relation, ce qu'on est passé d'une relation d'intimité familiale, je vais dire, à quelque chose qui est une relation d'individu à individu, d'humain à humain. On n'est plus dans quelque chose... Alors Pierre a beaucoup besoin de relation à l'autre encore, puisque bon, une détention longue peine, c'est quand même aussi un isolement et une perte d'humanité. Donc il faut veiller à ça. Je parle en tant que citoyenne quand je dis ça. Il faut veiller. Personne n'a intérêt à laisser ces gens mourir dans l'isolement, enfin se dessécher. Après, aujourd'hui, moi, je suis plus dans un affect avec Pierre. Je suis dans une relation de main tendue. Pour, à ma mesure, l'aider à rester humain, l'aider à rester un homme.
Alors, il y a une longue correspondance, parlez dans le livre, qui s'estompe un peu au fil du temps quand même. Ouais. Les lettres entre lui et vous, entre lui et les autres membres de la famille, se font un peu plus rares. Vous parlez d'une insoutenable loyauté à son égard.
Oui, qui pour
Parce
moi...
Parce que c'est quand même pas facile.
Non, et puis personne n'a envie de fréquenter ça en fait. Quand je dis ça, c'est-à-dire tout le système pénitentiaire, lui, moi je pense beaucoup aux familles de détenus. Alors évidemment, je pense aux familles de victimes qui, eux, n'ont pas la chance de maintenir le lien avec les personnes disparues, ce lien-là. Après, il faut voir les gens qu'on rencontre dans les parloirs. C'est des gens qui sont... Il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre de la loyauté, qui est une loyauté humaine, je trouve. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut raconter aussi. Parce que on peut, c'est un étonnement souvent chez mes proches ou chez les moins proches de savoir pourquoi est-ce que j'ai maintenu ce lien alors qu'on l'a tous maintenu dans la famille par ailleurs. Mais je pourrais pas parler de devoir, mais ça fait sens d'apporter son aide et son soutien à quelqu'un. Moi, pour moi, c'est une aide et un soutien qui s'arrêtera le jour de sa levée d'écrou.
De sa libération,
parce que à ce moment-là, il regagnera la société civile et il n'aura plus besoin de moi. Mais il faut vraiment prendre conscience de l'isolement des détenus.
L'idée du livre aussi, et peut-être d'ailleurs aussi l'idée de cette correspondance, Joanne Rigoulot, c'est de mettre des mots, d'essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Peut-être que s'il avait pu mettre des mots, lui, avant, sur sa dépression, comme vous l'avez expliqué, ou sur le dysfonctionnement de son couple, peut-être que les choses ne se seraient pas passées ainsi. Vous dites, il a finalement eu un comportement archaïque.
Totalement.
Il a reproduit des comportements archaïques,
ouais.
D'hommes tuant la femme.
C'est le principe.
De violence. Ouais, voilà. Si on met des mots, on n'est déjà plus dans la préhistoire.
Non. Mais effectivement, Pierre n'a pas de mots, et je pense que c'est quand même un des piliers de la dépression, c'est l'absence de mots. Parce que dès qu'on réussit à construire une pensée sur une faiblesse, on prend en force. Et c'est vraiment la force qui lui a manqué, quoi.
On va écouter Yvan Jablonka, si vous le voulez bien, Joanne Rigoulot, qui parle de son livre Laetitia ou La fin des hommes, que vous connaissez sûrement.
Mon travail d'historien, d'écrivain, c'est d'abord de recueillir la parole des gens, parce que j'ai rencontré les proches de Laetitia, les acteurs de l'enquête. C'est essayer de regarder, je suis allé dans les lieux où Laetitia a vécu. J'ai essayé aussi de comprendre la société qui est la nôtre. Laetitia était en train de devenir complètement prisonnière de sa mort et du crime qui l'a détruite. Et ça, c'est quelque chose qui soulève la révolte en
moi. Vous cherchez à la libérer d'une réduction au crime dont elle a été victime.
Oui, avant que je fasse ce livre, pour tout le monde, Laetitia, c'était un fait divers, rien de plus. De même que tant d'affaires qui impliquent des enfants victimes, tant d'affaires sont réduites au prénom de l'enfant qui a perdu la vie ou son innocence.
Mais...
Et ça, c'est quelque chose qui est insupportable. Donc, peut-on réparer les morts? Peut-on réparer la mort? On ne peut pas ressusciter Laetitia. On peut, en tout cas, rappeler qu'elle a été sa vie dans toute sa plénitude.
Voilà, Yvan Jablonka, à propos de Laetitia Chéret, qui a été donc le personnage de son livre « Laetitia ou la fin des hommes ». Vous parlez de Katia aussi,
ouais,
Joanne
oui.
Rigoulot, qui est la victime de
ouais.
Pierre, la femme de Pierre, qu'il a donc tuée. Et alors, vous parlez d'elle pour lui donner aussi une consistance, une vie, pour qu'elle ne soit pas qu'une victime. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable, c'est que vous ne pouvez pas ne pas évoquer en premier et ne pas penser en premier à la souffrance du tueur, finalement, non, quand vous apprenez...
Au moment des faits, ouais, bien sûr. Bien
ça,
sûr.
C'est incroyable.
Moi, c'est un
cheminement... Qu'est-ce qu'il a dû souffrir ?
Ouais, c'est le cheminement... Alors moi, je suis du mauvais côté. Voilà, hein, je suis du côté des tueurs, au moment où... c'est marrant, c'est ce lapsus que je viens de faire, le côté des tueurs. Au moment où j'apprends les faits, ma familiarité va au tueur. C'est ça qui est... Et c'est vrai que je pense que dans l'acceptation des faits, dans l'acceptation de ce changement de paradigme, c'est-à-dire qu'à un moment donné, Katia est morte et Pierre est devenu un tueur, il faut accepter de faire abstraction de la douleur pour s'occuper, pour prendre acte de la mort d'une victime. Et ça, c'est pas une évidence parce que il faut voir que la violence est quand même aussi la manifestation d'une souffrance. Et c'est une souffrance qui est très hypnotique, très hypnotisante quand elle survient. Et c'est vrai qu'on s'accroche, je dirais, d'abord à ça, avant de faire un cheminement qui va permettre d'accéder à la souffrance de la disparue, à la souffrance de la famille.
Et c'est pas forcément facile. Pourquoi tant d'empathie éprouvée, ressentie par les femmes victimes de violences? Ça, c'est une des questions aussi qui est posée dans votre récit,
pose, ouais.
Un dimanche matin. Vous avez, vous aussi, été victime
de
violence.
Ouais. Moi,
vous racontez d'autres cas
ouais.
de proches
ouais.
qui ont été victimes. Et à chaque fois, de manière systématique, il y a quelque chose de l'ordre de la compréhension nécessaire de ce qui est en train de se passer et de la personne qui est en train de produire la violence.
Je pense que ça provient vraiment de cet état de fascination. Alors, je pense qu'il y a il y a culturellement chez les femmes quand même un sens de l'empathie qui est développé avant le sens de la survie. déjà. Et je parle bien d'un fait culturel.
Culturel, ouais.
Pour moi, c'est un élément important, c'est que la violence est quand même une manifestation de souffrance. Alors, ce qui n'excuse pas du tout, mais ce qui permet quand même de l'expliquer, parce qu'il faut quand même bien trouver des explications à un moment donné. Hein. Et je pense qu'il y a quand même on est aveuglé. Je pense qu'on peut être aveuglé par la souffrance qui est manifestée à un moment donné. Et ça, c'est quand même un des éléments qui est important dans la maltraitance.
Lui, il m'attend dans le salon. Entre-temps, il a fermé la porte à clé, les clés sont dans sa poche. Il a fermé les rideaux. Et souvent, il met soit de la musique, soit la télé assez fort. Pour être sûr de... Il prépare, en fait, sa scène. Et là, il fait ce qu'on appelle des feintes. Il va faire semblant de me taper, de me mettre des coups. Et ce qu'il veut, c'est que je bouge pas. Donc au fur et à mesure des séances, il veut m'apprendre à résister. Et en fait, forcément, au bout de 3-4 feintes qu'il va me faire de me mettre une claque, il y a un moment où je vais cligner des yeux, où je vais avoir peur. Et de là, ça va être, il va me mettre la première claque en me disant « je t'avais dit de résister ». Donc du coup, il va mettre sa première claque, la deuxième. Après, ça va être en général des coups de poing, jusqu'à temps que je tombe par terre, des coups de pied. Et ce qu'il stoppe à chaque fois, c'est le sang. Et le soir, à la limite, c'est pire parce que ça peut durer toute la nuit. Voilà, c'est déjà arrivé qu'il me tape tellement fort que j'en tombe dans les pommes. Et le lendemain matin, en fait, je me réveille. Et lui, c'est lui qui est là à me soigner en se disant « putain, je l'ai tué ou pas ?» Et quand je me réveille, il me dit « putain, je croyais que je t'avais tué. Tu te rends compte ce que je suis obligée de faire à cause de toi et tout ?» Ou en plus, il me dit « putain, mais si tu serais morte, j'aurais été obligée de te jeter dans la Seine, on habite près de la Seine. » Il me dit « et puis de faire croire à tout le monde que tu t'étais suicidée et tout. » Voilà, en fait, et la vie reprend presque normalement.
Témoignage de Morgane Seliman dans l'émission « Les pieds sur terre », c'était une archive de 2016, reportage de Rémi Doua. Joanne Rigoulot, comment vous réagissez en entendant ça? Vous disiez que c'était une construction culturelle finalement cette...
Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la construction culturelle qu'on reconnaît très bien d'ailleurs dans ce témoignage qui est assez stupéfiant. Dans le cas qui est celui du livre, il faut quand même préciser qu'on n'est pas face à des violences dites habituelles et coutumières. C'est quelqu'un qui va manifester une violence soudaine et excessivement brutale. Donc c'est important aussi dans le parcours de Katia, parce que Katia était quelqu'un qui, à mon avis...
N'aurait pas supporté
Non, ça. Aurait pas eu cette... elle aurait, à mon avis, elle aurait pas eu cette... Alors, il y a quand même aussi une question de construction psychologique, émotive, quoi, émotionnelle et personnelle par rapport à ça. C'était ce qu'on appelle une grande gueule, et je le dis avec... c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était... Je dis qu'on aurait volontiers... imaginez patronne d'un syndicat, c'était quelqu'un de très vif et c'est important pour moi de rendre hommage justement à sa vitalité. Parce que, et là je reprends les mots d'Yvan Jablonka tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je pense que c'est vraiment pas dans les faits divers qu'on peut faire exister les victimes. On parle souvent du fait qu'ils soient peu cités dans les procès, mais les victimes, elles existent partout ailleurs bien mieux que dans les procès, parce que ce ne sont pas des victimes. Katia n'avait rien d'une victime. Et c'est vrai que même si on retrouve, et moi c'est en partant dans l'écriture de ce livre, que j'ai trouvé en réalité effectivement les fragments d'un système qui est un système qui est quasi systématique dans le fait divers et dans le féminicide, mais c'était pas quelqu'un qui était habitué aux violences, pas du tout.
C'est une des fonctions de la littérature du coup, peut-être.
Je pense, en tout cas, dans le sens du témoignage, tout à fait.
Merci beaucoup, Joanne Rigoulot, d'être venue témoigner ce matin sur France Culture. Votre récit, Un dimanche matin, est publié aux éditions Équateur.